Bon matin, la Bible parle. C'est un plaisir pour moi de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Je tiens à remercier Pasteur Jeff pour l'invitation. Vous êtes privilégié d'avoir un homme qui aime la parole, qui prêche la parole depuis des années comme ça, fidèlement. Prêcher la parole, c'est une chose, mais de la prêcher fidèlement. Donc, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. C'est un père dans la foi. Dernièrement, il est venu me voir au bureau. On devait jaser, prendre un café ensemble. Finalement, on a parlé pendant 3 heures. Vraiment, donc, Pasteur Jeff, je te salue. Merci. Du privilège que tu me donnes de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus au peuple de la Bible parle. Merci à vous d'être là ce matin. C'est également spécial, je veux saluer l'assistant pasteur Sylvain qui est un ami. D'ailleurs, il y a 25 ans, alors que j'étais un jeune chrétien, Sylvain était mon leader de jeunesse et le comité des leaders m'a décidé de me faire prêcher pour la première fois. Donc, la première fois que j'ai prêché, il y a 25 ans, c'est notamment grâce à Sylvain, donc c'est un frère que j'apprécie beaucoup. Son épouse, la famille Turgeon, je pense à Gaston, je pense à Madame Pierrette, plusieurs personnes. Pour moi, vous avez toujours été une source de bénédiction. Et je serai éternellement reconnaissant au Père, à Pasteur Michel, qui était mon pasteur, mon mentor. Et c'est vraiment pour moi un honneur de venir devant vous. Maintenant, le titre de mon message ce matin, c'est simplement « Jésus est la source de la grâce ». Jésus est la source de la grâce. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans l'Évangile de Jean. 5e chapitre, un texte bien connu, un de mes textes préférés. On va y aller section par section. Et nous allons voir ensemble comment Jésus est la source de la grâce, malgré la pandémie, malgré le virus, malgré le chaos, malgré tout ce qui circule, malgré les tensions politiques. Jésus demeure Seigneur, Jésus demeure Sauveur, il est le roi des rois. Et on va voir dans Jean 5 comment dans ta vie et comment dans ma vie il est encore la source de la grâce. Jean 5, le verset 1. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons ou des brebis, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Et il y a une tradition qui disait à l'époque qu'ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau. Le premier qui descendait, après que l'eau avait été ajoutée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. La parole de Dieu reprend au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher, sachant qu'il était là depuis longtemps, et lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Et on voit ici une multitude, puis en fait, c'est plus qu'une multitude, c'est un condensé de misère humaine. On a des gens qui sont malades, on a des gens qui sont paralysés, qui sont là depuis des années, qui sont entassés. Souvent, on peut voir les récits bibliques de manière poétique, on pense à la source de Bethesda, puis on peut s'imaginer un peu comme une piscine ou un bain tourbillon. Tu dois comprendre que c'est un lieu crasseux, c'est un lieu puant. C'est le lieu des cas désespérés. Et cette histoire commence de manière extrêmement triste. Un homme qui est là dans la crasse, dans la misère, et rien ni personne ne peut rien pour lui. Et je veux vous dire, la Bible parle d'entrée de jeu que tu es cet homme. Tu es cet homme. Peu importe qui tu es, chrétien, chrétienne, tu es cet homme. Vous savez, souvent les chrétiens, on voit la Bible comme une fenêtre pour voir le péché des autres, alors que la parole de Dieu est un miroir qui te renvoie à ta propre réalité. Quand tu vois la misère de cet homme, la parole de Dieu déclare que c'est toi, c'est ta misère, tu es cet homme. Et on doit se poser la question, qu'est-ce que ce miracle enseigne? Dans l'Évangile de Jean, Jésus, lorsqu'il déclare quelque chose, il va souvent l'illustrer par un miracle. Par exemple, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde » puis il va guérir un aveugle. Jésus va dire « Je suis le pain de vie » il fait la multiplication des pains. Il va dire « Je suis la résurrection et la vie » et il va ressusciter Lazare. Et on voit ici que Jésus veut nous enseigner qu'il est la source de toute bénédiction. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est la source du pardon? Que la source de la délivrance, elle est en Dieu. Que Dieu est la source de la puissance. Que Dieu est la source de la transformation. Que Dieu est la source de la restauration. Le problème, c'est que tu es naturellement incapable d'aller à cette source. Dieu est la source de la bénédiction, mais comme cet homme, nous sommes incapables d'aller à cette source. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Okay? J'ai vu des gens morts et j'aurais pu leur dire, aide-toi et le ciel t'aidera, mais la Bible dit que nous sommes paralysés dans notre péché. Plus que paralysés, nous sommes morts. La Bible dit pire encore, il n'y a aucun qui cherche Dieu. Si Dieu ne t'a pas trouvé, tu ne peux pas trouver Dieu. La Bible dit qu'aucun ne cherche Dieu par nature. Et même l'apôtre Paul va dire, avec toute mon expérience, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de toi ce matin dans ton salon, dans ta cuisine ou peu importe, dans la voiture, puis tu écoutes un message, tu peux dire à la personne à côté de toi, tu es un cas désespéré. Comme cet homme, nous sommes des cas désespérés. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves du péché. Vous savez, un lion végétarien, ça n'existe pas. Tu peux offrir de la salade à un lion, mais le lion va toujours, 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 toujours choisir la viande au lieu de la salade. Pourquoi? Parce que le lion est un carnivore. Le lion choisit toujours en fonction de sa nature. Pourquoi nous sommes esclaves du péché? Parce qu'on choisit toujours en fonction de notre nature pécheresse. Si Dieu n'intervient pas dans nos vies, on choisit toujours le péché. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, nous sommes des cas désespérés comme cet homme. Nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves de Satan. Et d'ailleurs, dans Jean, on le voit dans Jean 8, Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Des gens, peut-être, tu m'écoutes, puis tu dis, non, moi je ne suis pas comme ça. Oui, tu es comme ça. Par nature, nous aimons le diable. Le diable nous donne, c'est Woody Bocam qui dit que le diable nous donne ce qu'on veut, puis on est content de recevoir ce que le diable nous donne. Par nature, nous détestons la lumière. On aime les ténèbres. Le diable est notre père. Donc, nous sommes des cas désespérés. Sans Jésus, nous sommes esclaves du péché, esclaves du diable. Dans une croisade, à un moment donné, il y a un prédicateur qui est en train d'annoncer, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Puis il va dire, à un moment donné, il parle de Satan, il parle du diable. Et il y a des jeunes comme ça qui chahutent un peu, puis un jeune qui avait bu. Puis un jeune qui se lève et qui dit, « Le diable est mort! » Et le prédicateur le regarde puis lui dit, « Si le diable est mort, toutes mes sympathies parce que tu es orphelin. » La réalité, par nature, le diable est notre père. Nous sommes comme cet homme, non seulement nous sommes esclaves du péché, nous sommes esclaves de Satan, mais le drame, c'est que comme cet homme, rien ni personne ne peut nous aider, la religion ne peut nous aider, la thérapie peut faire son bout de chemin, mais ultimement, il y a des choses que seulement Jésus peut enlever dans nos vies. Et comme cet homme, nous sommes non seulement incapables de s'aider nous-mêmes, mais il n'y a personne autour de nous qui peut nous aider sans Jésus. Imagine, cet homme est paralysé, il est là, à la source de Bethesda, il est entouré de gens incapables, il est incapable entouré de gens incapables. Imagine, cet homme est paralytique, puis il dit à son ami boiteux, « Quand l'eau va bouger, aide-moi à me lancer. » Puis quand l'eau bouge, le boiteux tente de se rendre, il n'a pas le temps de se rendre. Puis il se retourne, puis il dit à son ami, « Toi, aide-moi. » Puis il dit, « Mais moi, je suis aveugle, je ne la vois même pas l'eau bouger. » Et ça, c'est une illustration de notre monde. C'est l'apôtre Pierre qui va dire dans son épître que, dans le monde, les gens promettent la liberté alors que nous sommes tous esclaves. Et comme cet homme, nous sommes un cas désespéré, nous avons besoin d'une intervention extérieure. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent ce matin et tu te dis, mais moi je suis chrétien depuis tellement longtemps, ce message-là ne s'adresse pas à moi. Je veux juste te dire, mon ami, qu'on ne gradue jamais de l'Évangile. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un chrétien d'expérience de 20 ans a besoin? De la même bonne nouvelle qu'il a entendue la première fois, parce qu'on ne gradue pas de l'Évangile, on a toujours besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Et quand on regarde, il y a des chrétiens qui disent, « Moi, ça fait tellement d'années, ça ne s'applique pas à moi. » Mon ami, même nous, avec le Saint-Esprit, encore une fois, nous avons de la difficulté à marcher dans la liberté. C'est pourquoi Jésus a dit, « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. » Quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné, un chrétien qui me dit, « Pasteur, j'ai besoin de délivrance. » Je dis, « Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as besoin d'apprendre à marcher dans la délivrance que Jésus t'a acquise à la croix du calvaire. » Nous sommes comme cet homme, nous sommes esclaves. Est-ce que tu sais quelle est la seule prison qu'Houdini, tout le monde connaît Houdini, le grand magicien, la seule prison qu'Houdini a été incapable d'ouvrir? Un jour, à un moment donné, Houdini lançait des défis à différentes personnes, à différents directeurs de prison en disant « Moi, je peux m'évader de toutes les prisons. » Et il y a un directeur de prison qui a relevé le défi, puis il a dit à Houdini « Je suis convaincu que tu ne sortiras pas de ma prison, tu vas être incapable de déverrouiller le verrou. » Et l'histoire nous dit que Houdini a été enfermé. Et Houdini a essayé tous ces trucs pendant longtemps, longtemps, pendant de longues minutes, tentant de déverrouiller la porte. Et à un moment donné, après de longues, longues, longues minutes, au-delà d'une heure, Houdini réalise que pour la première fois de sa vie, il va échouer. Houdini réalise que pour la première fois de sa vie, sa réputation va être affectée parce qu'il fait face à un défi qu'il est incapable de surmonter. Et au moment où Houdini réalise qu'il est incapable de débarrer cette porte, comme on dit au Québec, il va déposer sa tête sur la porte, puis la porte va s'ouvrir. La seule porte qu'Houdini est incapable de déverrouiller, c'est une porte qui est déjà déverrouillée. Mon ami, Jésus a déjà déverrouillé la porte. Nous n'avons pas besoin de nouvelle délivrance, nous avons besoin d'apprendre à marcher dans la délivrance qui nous a acquise. Et comme cet homme, nous sommes des cas désespérés. Mais voici la bonne nouvelle, on continue. Verset 8. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme retrouva la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. La deuxième grande vérité de ce texte, c'est non seulement nous sommes des cas désespérés, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est la véritable source de la grâce. On voit Jésus qui va initier quelque chose dans la vie d'un cas désespéré. La Bible parle, il y a toutes sortes de réalités qui m'écoutent ce matin. Il y a des gens, peut-être, qui ont un défi dans ta maison, tes enfants ne sont pas sauvés, peut-être que votre mariage bat de l'aile, peut-être que vous êtes retombé dans de vieux péchés, peut-être que vous êtes en proie au découragement. Vous faites face à toutes sortes de situations. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est encore en mesure d'initier quelque chose dans vos vies. On voit ici Jésus, qui non seulement Jésus n'offre pas la source, Jésus est la source. Hein? Jésus n'offre pas la vérité, Jésus est la vérité. Jésus ne donne pas, ne propose pas un chemin, Jésus est le chemin. Jésus n'est pas une vie, il est la vie et Jésus est la source. Et tu ne peux pas aller à la source. Par nature, on l'a vu, puis même nous, en tant que chrétiens, quelquefois dans notre chair, on ne veut pas aller à la source ou on ne peut pas aller à la source. Et la bonne nouvelle, c'est que le même Jésus qui s'est révélé à nous la première fois, alors qu'on ne peut pas aller à la source, c'est la source qui vient à nous. Alors que cet homme ne pouvait pas aller à la source, Jésus a été à cet homme. Vous savez, la grâce, et je sais, la Bible parle, vous avez une théologie robuste de la grâce, c'est toujours trois choses. Hein? La grâce, elle est initiée. La grâce, elle est imméritée et la grâce, elle est illimitée. Et on voit ici Jésus qui manifeste, qui va initier sa grâce, une grâce imméritée et infinie qu'il va offrir à cet homme. La grâce, elle est initiée. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je veux que tu comprennes ce que Jésus a fait dans ta vie lorsqu'il t'a sauvé. Nous étions tous des rebelles, nous dit Éphésiens 2. Nous étions tous morts, incapables de s'en sortir. Nous étions tous coupables, ennemis de Dieu. Nous étions dans une prison spirituelle. Et ce n'est pas la même prison qu'Odini. Les portes étaient verrouillées par notre péché. La colère de Dieu était sur nos vies. Et Jésus, dans sa grâce, a marché dans cette prison et a ouvert quelques portes. Et est-ce que tu sais comment est-ce qu'on sait si quelqu'un est vraiment chrétien? C'est quand tu contemples ton salut et tu te dis, mais pourquoi moi? Jésus a ouvert quelques portes. Jésus a ouvert la porte de ma prison, il aurait pu ouvrir une autre porte, mais dans sa grâce, il m'a choisi, pas à cause de moi, à cause de sa gloire. Et quand je réalise que Jésus m'a sauvé, moi qui ne méritais rien, qui n'était pas plus intelligent que quiconque, dans sa grâce, pure grâce, il m'a sauvé, je suis plein de courage lorsque je vis des épreuves parce que je sais que la grâce de Jésus demeure encore réelle. Alors qu'il a initié quelque chose dans mon salut, il a initié mon salut, il va encore initier des choses dans nos vies. Il initie la bénédiction, il initie ce que nous avons besoin. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Deuxièmement, l'itimérité. Les chrétiens, on a tendance à commencer par la foi puis finir par les œuvres. Hein, c'est Galate. Je sais pourquoi la Bible parle, pas vous autres. Je parle des autres églises, ailleurs. On a la difficulté à saisir que la grâce, elle est imméritée encore. On pense que le salut est immérité, mais on a l'impression que les autres bénédictions dans nos vies, ben, on doit les mériter au moins un peu. Hein, c'est la chair. Pour moi, une des plus belles histoires de grâce, c'est ce papa, en fait, une famille qui a adopté une petite fille. Et la petite fille avait fait différentes familles. Et la petite fille de 5 ans, à peu près, c'est une fan de Disney. Elle va aller à Disney, puis les princesses, puis les châteaux, puis Disney, puis bon. Et à un moment donné, le papa va la voir et lui dit, « J'ai une surprise pour toi. » Donc, toute la famille, on va aller à Disney. Plus beau jour de sa vie. Mais il s'est produit quelque chose de particulier. Donc, ce père raconte dans son texte que, suite à ça, la petite fille a commencé à être détestable. Donc, a commencé à se battre avec ses frères et ses sœurs. Donc, cette famille-là avait déjà des enfants. Commençait à voler, a commencé à être vulgaire. Petite fille de 5 ans, mais commençait à avoir un mauvais comportement, vraiment, vraiment un mauvais comportement, briser des choses. Puis à un moment donné, le père le prend à part, puis lui dit, « Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que je ne peux pas aller à Disney. » Le père va confesser, « C'est sûr que j'ai voulu utiliser ça comme manipulation, mais je ne l'ai pas fait. » Parce que le père a compris qu'il y avait quelque chose de plus profond. Puis le père lui a dit, « Est-ce que le voyage à Disney est un voyage de famille? » La petite fille, un peu peinarde, a dit, « Oui. » Et il lui a demandé, est-ce que tu fais partie de la famille? Puis elle a dit, ben oui. Il dit, ben dans ce cas-là, tu viens à Disney. Donc, c'est sûr que si tu continues d'avoir un mauvais comportement, il va y avoir des conséquences, mais Disney est un voyage de famille, tu viens à Disney. Les choses se sont calmées un petit peu, pas parfaitement. Mais le père raconte que lorsqu'ils ont été à Disney, à la fin de la première journée, ils sont à l'hôtel, prend la petite fille, puis la petite fille est émotive. Puis il pose la question, lui dit, as-tu aimé ta journée? Elle a les larmes aux yeux, puis elle dit, oui. Puis là, elle raconte son cœur déborde, puis son rêve, puis elle a vu les princesses, puis les châteaux. Puis il lui dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Puis la petite fille de répondre, petite fille de 5 ans de répondre, aujourd'hui, j'ai compris que si je suis à Disney, c'est pas parce que j'ai été une bonne fille, c'est parce que je suis ta fille. Frères, sœurs, si Dieu nous bénit, c'est pas parce qu'on a été de bons chrétiens, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin de passer d'une relation, transactionnelle avec Dieu. Je te donne ma sainteté, tu vas me bénir. Une relation filiale. Mes enfants vont toujours demeurer mes enfants. Et Dieu nous bénit, pas parce qu'on fait des bonnes choses, pas parce qu'on est meilleur, parce que nous sommes enfants de Dieu. La grâce, elle est imméritée. Et Dieu peut répondre à ta prière, pas parce que tu as assez prié, pas parce que tu mérites, parce que Dieu t'aime et parce que tu es enfant de Dieu. Et la grâce, elle est infinie. Vous savez, il y a des gens qui m'ont déjà accusé, m'ont dit, tu prêches trop la grâce. Mais là, quand tu regardes la Bible, regarde les épîtres de l'apôtre Paul, ça se termine toujours avec la grâce, ça commence toujours avec la grâce. La grâce, c'est partout. Dans l'Ancien Testament, la grâce, c'est partout. Si on ne peut pas, la personne qui a prêché le plus la grâce, c'est Dieu dans sa parole. Et quand tu regardes la grâce de Dieu, non seulement la grâce, elle nous sauve, donc la faveur imméritée initiée de Dieu, elle nous sauve, mais la Bible dit qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous transforme. En fait, la grâce fait tout. Puis quand des gens disent qu'on devrait moins prêcher la grâce, c'est comme dire, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais parce qu'on peut abuser de la grâce. Frères, sœurs, on ne peut pas moins prêcher la grâce parce que certains abusent de la grâce. C'est comme dire qu'on va limiter l'air parce que certains abusent de l'air. La réalité, c'est que, oui, il y a des gens qui ne méritent pas l'air, ils ne méritent pas l'oxygène. Mais on ne peut pas couper l'oxygène à ces gens-là. Encore une fois, la grâce, c'est notre air. Donc, Jésus est la véritable source de la vie. Dans ce texte-là, on voit que sa grâce, elle est initiée, elle est imméritée, elle est infinie. Et Jésus dit à cet homme, « Veux-tu devenir saint? Veux-tu être en santé? » Et Jésus a beaucoup plus en vue que la guérison. Il a également en vue son salut. Voici l'application. Jésus, dans sa grâce, t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Jésus est la source de la grâce. Pourquoi? Car il se sert des faibles, des malades, des trop jeunes, des trop vieux. Ceux qui m'écoutent, tu te trouves trop jeune. Bonne nouvelle, tu viens d'être qualifié pour la grâce de Dieu. Comme si on pouvait se qualifier pour la grâce de Dieu. Je ne veux pas annuler mon message. Si tu te trouves trop vieux, bonne nouvelle, Jésus veut faire une œuvre dans ta vie. Donc, Jésus est la source de la grâce car il se sert des faibles, des malades, des trop jeunes, des trop vieux, des découragés, des rejetés, des disqualifiés, des incompétents, tous les ceux qui se sentent incompétents, qui ne se sentent pas à la hauteur. Félicitations! Parce qu'encore une fois, c'est à ces gens-là que Dieu fait grâce. Jésus fait grâce à ceux qui ne méritent rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. Et on continue. Donc, je rappelle le verset 2. Cet événement se situe où? À Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda. C'est important. OK, retiens ça, Bethesda. On reprend verset 10. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis. On est bon, les chrétiens, là-dedans, pour dire ce qui n'est pas permis. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Il leur répondit, mais c'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, prends ton grabat et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui te dit, prends et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'est esquivé. En effet, il y avait foule en ce lieu. Frère, ça se déroule où? Bethesda. Est-ce que tu sais que veut dire Bethesda? Bethesda, vient de l'hébreu, ça veut dire maison de la grâce. Dans la maison de la grâce, on devrait s'attendre que les croyants, que les religieux, on devrait s'attendre à avoir une célébration de la grâce. Mais non! Dans la maison de la grâce, il y a le rejet de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce scandalise et la loi sécurise. Je vais revenir à ces concepts dans quelques instants. Et la troisième chose que ce texte, et je te rappelle, ce texte-là est un miroir. Donc, premièrement, il est centré sur Jésus, mais un miroir sur ce que Jésus fait dans nos vies. Premièrement, tu es cet homme, tu es ce cas désespéré. Deuxièmement, Jésus est la véritable source de la grâce. Troisièmement, la Bible parle. Est-ce que tu vis vraiment dans la maison de la grâce? Est-ce que ton comportement reflète la maison de la grâce? Est-ce que ta vie est une célébration de la grâce ou un rejet de la grâce? Non seulement envers les autres, mais dans ta propre vie. Pourquoi la grâce est-elle si difficile à accepter? La grâce et le message de la grâce scandalise. Le message de la croix qui encore une fois, qui est l'illustration, qui est même plus que l'illustration, qui est la concrétisation de la grâce, scandalise. Pourquoi est-ce que la grâce est si difficile à accepter? Quelqu'un a déjà dit, si tu veux mettre les gens en colère, prêche la loi. Mais si tu veux vraiment les mettre en colère, prêche la grâce. Pourquoi? OK. Parce que la loi offense parce qu'elle te dit quoi faire. Hein? Tu feras ci, tu ne feras pas ça. Les 10 commandements. Hein? Tu ne commettras pas d'adultère. Hey, tu ne vas pas me dire quoi faire. C'est dérangeant. Tu ne voleras pas. Tu ne calomnieras pas. Pourquoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'idole. Hein? Les idoles du cœur sont encore très présentes aujourd'hui. Puis la réalité, quand on regarde ça, ça nous dérange parce que la parole de Dieu nous dit quoi faire. Mais Bible parle, est-ce que tu sais qu'est-ce qui fâche plus les gens que de se faire dire quoi faire? De se faire dire qu'on ne peut rien faire. La loi offense parce qu'elle nous dit quoi faire, mais la grâce, elle nous scandalise. Pourquoi? Parce qu'on déteste se faire dire qu'on ne peut rien faire. Quand on regarde dans le texte ici, on voit, on rejette la grâce, puis les croyants, on est devenus des spécialistes pour offrir des substituts à la grâce. On comprend la grâce de Dieu, mais on a de la difficulté à vivre la grâce de Dieu dans nos propres vies. C'est pourquoi les chrétiens, on trouve toutes sortes de remplacements à la grâce. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, un jour j'ai demandé à un homme c'était quoi son verset préféré, puis il me dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». J'ai dit « OK, j'ai très très hâte que tu me donnes la référence biblique de ce beau verset non biblique ». Aide-toi et le ciel t'aidera, soit les chrétiens l'emploient, mais mon ami, c'est le message le plus anti-chrétien qui soit. Aide-toi et le ciel t'aidera, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est Dieu qui aide, le ciel aide des gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, des gens qui sont perdus, des gens qui sont dévastés, des gens qui sont blessés. Mais non, c'est trop difficile de recevoir la grâce parce que ça nous dit qu'on ne peut rien faire, il faut simplement recevoir comme un cadeau. On veut avoir un contrôle. C'est pourquoi la grâce scandalise, mais la loi sécurise. On aime rajouter des règles. On aime avoir l'impression qu'on contrôle la faveur et la bénédiction de Dieu. Parce que c'est paniquant quand il n'y a pas de cause à effet entre ce que je fais et ce que Dieu me donne. Donc, c'est comme la machine à bonbons. Je mets le 25 sous, j'ai la gomme. Maintenant, c'est très simple, c'est sécurisant. Mais quand je ne sais pas quand la gomme va tomber, je n'ai aucun contrôle. Et l'être humain pécheur n'aime pas ça. J'aimerais vous nommer rapidement des substituts qu'on voit dans la vie des chrétiens, dans les églises. Encore une fois, pas la Bible parle, dans d'autres églises, au portail. Le légalisme. Hein, on dit que Dieu ne me bénit pas de manière imméritée, Dieu bénit mon obéissance supérieure. C'est ce que faisaient les pharisiens. Hein. Les pharisiens avaient la loi, mais ils ont rajouté des choses. C'est comme, par exemple, à la maison, j'ai une piscine. Puis la piscine est un lieu de bénédiction, de célébration, de réjouissance. Mes enfants vont se baigner. Mais évidemment, je veux protéger mes enfants, donc je mets une clôture. Donc, j'ajoute quelque chose pour protéger la bénédiction. C'est ça le légalisme. Ça part d'un bon principe, mais c'est une mauvaise réaction. Puis imagine que je dis à mes enfants, tu ne peux pas franchir la clôture pour aller te baigner, mais plus encore, vous allez rester dans la maison tout l'été pour être sûr que vous n'allez pas franchir la clôture et que vous n'allez pas tomber dans la piscine. Et pour être certain que mes enfants restent en sécurité, je vais dire non seulement vous n'allez pas être dans la piscine, vous n'allez pas franchir la clôture, vous allez rester dans la maison, vous allez aller vous enfermer dans le sous-sol pour être certain de ne pas tomber dans la piscine. Voyez-vous, c'est ça le légalisme. C'est qu'on veut tellement préserver la bénédiction, la parole de Dieu, qu'on rajoute plein de choses qui annulent la bénédiction de la parole de Dieu. Alors moi, pendant des années, j'étais dans le légalisme. Moi, il y a des périodes de ma vie où on me dit un bon chrétien doit prier à tous les jours une demi-heure. Puis à tous les jours, je prie une demi-heure, pas pour être avec Dieu, mais pour faire ma checklist dans mon bon carnet de petits croyants. Puis là, je regardais toujours ma montre, puis là, on me disait une demi-heure, puis là, après 27 minutes, 28 minutes, 29 minutes, puis là, j'étirais, puis à 30 minutes, dans le nom de Jésus, amen. Pourquoi? Comme ça, à 29 minutes, le Dieu de toute éternité, roi du ciel et de la terre, ne va pas me bénir, mais à 30 minutes, il est impressionné, il va me bénir. Hein, je lisais ma Bible, je priais tous les jours, beaucoup plus comme une police d'assurance contre l'épreuve que pour prendre plaisir en mon Dieu. Est-ce que vous savez, allez pas le répéter, mais la première fois que je n'ai pas mis une cravate pour prêcher au portail, il y a une famille qui a quitté l'église. Voyez-vous, là. Et je me souviens, ce matin-là, bonne nouvelle de Jésus a été annoncée. Dieu a sauvé des gens, mais le plus important, ce n'est pas que des gens soient sauvés, c'est que le pasteur ait une cravate. Voyez-vous, applique-la à ta vie. Mais on remplace la grâce par le légalisme, par le moralisme. Ça ravage nos églises. C'est qu'on croit que Dieu va bénir ma moralité supérieure. Hein, l'essentiel du message chrétien, c'est qu'on voit la Bible comme un livre pour nous donner une bonne vie. Jésus n'est pas venu pour nous donner une bonne morale, pour faire de bonnes personnes, qu'on ait une bonne vie. Jésus est venu pour nous arracher de l'enfer. Donc, le message biblique, c'est pas sauve, c'est pas vole pas, couche pas. C'est pas l'essentiel. Je dis avec beaucoup de compassion à des chrétiens qui sont simplement heureux que leurs jeunes ne couchent pas, ne volent pas, ne mentent pas. Ce n'est pas suffisant. Il y a des parents qui sont venus me voir un jour parce que j'avais prêché ce genre de message puis ils étaient fâchés, puis je leur ai dit, « Mes amis, ton jeune là, peut très bien ne pas avoir de relations sexuelles avec sa blonde, mais ultimement, sans Jésus, il va simplement finir vierge en enfer. » Le bon, la moralité, la conséquence du salut, pas la cause du salut. Lorsqu'on a déménagé, on a acheté notre maison, les escaliers à l'arrière étaient pourris. Puis ma femme me dit, il faut que tu règles ça. Puis, vous savez, ma femme, elle me dit, comme toutes les femmes, elle me répète des choses. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, je m'en occupe. Puis elle dit, ça fait 6 mois, je m'en occupe encore. Puis à un moment donné, j'ai décidé de régler le problème. Puis j'ai dit à ma femme, j'ai réglé. Les escaliers pourris, c'est réglé. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai peinturés. Est-ce que j'ai réglé le problème? Non. La pourriture n'est pas enlevée. La moralité sans Jésus, sans la nouvelle naissance, c'est simplement une couche de moralité sur la corruption. Puis souvent, on pense que la moralité va remplacer la bonne nouvelle de Jésus, va remplacer la grâce. Non. Souvent, notre ascétisme, je le vois présentement, avec des chrétiens qui, on vient de sortir de Noël, combien j'ai eu des débats, des gens qui me disent qu'on ne devrait pas célébrer Noël. Hein, pourquoi? C'est qu'on pense qu'en se privant de certaines choses, on va gagner la faveur de Dieu parce qu'on est plus spirituel que les autres. Hein. On se prive d'alcool, bien Dieu va plus nous bénir. Donc, nos convictions sont déterminées par des privations qui vont nous amener, nous faire gagner des points devant Dieu. Puis je continue, souvent le spiritualiste, donc ma spiritualité, à combien de gens pensent qu'à force de jeûne, de jeûne, de jeûne, de jeûne, tout à coup, Dieu n'aura pas le choix? Moi, ma conception du jeûne pendant des années, ça a été, puis j'ai jeûné pendant des jours et des jours et des jours, c'est qu'à force de jeûner, je vais mettre de la pression sur Dieu, puis à un moment donné, il n'aura pas le choix de me bénir. Ah, comme si le Dieu du ciel est impressionné parce que tu as le ventre vide depuis 3 jours, depuis 10 jours. Hein, le jeûne ne change pas Dieu, le jeûne nous change nous. Mais on remplace la grâce par des substituts, l'intellectualisme. On est d'accord, la Bible parle, nous sommes d'accord sur l'importance d'une bonne théologie. Mais ce n'est pas une bonne théologie qui sauve, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui sauve. Et on remplace par le mysticisme. Donc, Dieu me bénit à cause de mon expérience. On le voit avec les... Et je ne veux pas entrer dans un débat, peut-être je ne devrais pas. Nos frères et nos sœurs, lorsqu'on parle de complot, on dit qu'on a accès à de l'information que d'autres n'ont pas, puis peut-être. Mais encore une fois, notre salut n'est pas dans l'information qu'on aurait que d'autres n'ont pas. Donc, Dieu ne va pas plus nous bénir. J'ai un frère qui vient nous voir et qui me dit, « Oui, mais moi, pasteur, là, il faut que j'avertisse ma famille, il faut que j'avertisse mes proches parce que je vois là, ce qui se passe autour et on va venir voler ma maison. Puis il faut que je leur dise de se réveiller et de faire leur recherche pour ne pas se faire voler. » Je dis, « Mon ami, ta job, ce n'est pas d'avertir ta famille qu'un voleur vient. Ta job, c'est d'enseigner à ta famille comment verrouiller les portes de ta maison par la parole de Dieu. » Donc, l'activisme, la performance, souvent, à force de faire des choses, hein, on notre identité est déterminée par la performance. J'écoutais cet été Lloyd Jones sur sa série, sur une longue série sur le réveil. Puis le frère disait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, une des choses que plusieurs chrétiens lui avaient dit, les choses les plus difficiles qu'ils avaient trouvées suite à la Deuxième Guerre mondiale, c'était lorsqu'il y avait un bombardement, d'aller s'asseoir dans le bunker et d'attendre. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles rien. Être dans un bunker, c'est comme, tu as l'impression de rien faire, mais c'est la chose la plus sage à faire. Il y a des chrétiens qui s'agitent, qui s'activent, alors que la chose la plus simple, c'est de se reposer en Dieu qui est notre abri. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et vous, on remplace la grâce par toutes sortes de choses, par le fidéisme. Souvent, on pense que Dieu va bénir ma foi supérieure. À moi, pendant longtemps, là, j'ai cru que si je ramassais cette foi en moi, puis je prenais toute la foi, puis je prenais une boule de foi, puis je la mettais à Dieu, Dieu n'aurait pas le choix de m'écouter. Ça ferait bouger la balance. Non. Encore une fois, c'est Tim Keller qui va dire, ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de ta foi, c'est la qualité de ta foi. Imaginez qu'avec Pasteur Jeff, on s'en va en mission. Je sais que vous avez fait des belles missions, on s'en va en Haïti. Vous savez, autrefois, là, quand on prenait l'avion là, dans l'ancien temps, et là, on est là, puis imaginons que moi, je suis très stressé en avion. Pasteur Jeff, pas. Donc, imaginons, on entre dans l'avion, et là, on est assis les deux, mais moi, là, je suis terrorisé. Moi, je prie, Seigneur, aide-moi. Je suis nerveux. Je demande des gravoles, je sais pas ta conviction, je demande un whisky. Si t'es pas là-dessus, bon, j'ai commandé une tisane, peu importe, pour me calmer. Pasteur Jeff, lui, chante des cantiques. Deux expériences différentes. Est-ce qu'on va se retrouver au même endroit? Oui. Ce qui fait la différence, c'est pas mon expérience, c'est pas la foi que j'ai dans l'avion, c'est l'avion. Ce qui fait la différence, c'est pas la quantité de ta foi, c'est l'objet de ta foi, c'est Jésus qui fait la différence dans nos vies. Il y a plein de chrétiens qui enseignent, qui ont une grande foi dans un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Une petite foi en Jésus ira toujours plus loin qu'une grande foi dans rien du tout. Ce qui fait la différence, c'est l'objet de notre foi, c'est la qualité de notre foi. Puis je continue pas à la Bible pas, mais je vois du paganisme qui sont dans les églises. Ah, je viens d'avoir un pasteur un jour qui dit, il me raconte quelque chose, puis il dit, je touche du bois. Le seul bois que le chrétien veut toucher, c'est le bois de la croix de Jésus. Donc, je pourrais continuer le matérialisme. Puis encore une fois, tu sais, où on pense que combien de bons chrétiens donnent leur dîme comme pour une police d'assurance? Hein, puis on a vu dans certains milieux où des évangélistes qui disent donnez-nous un don, puis Dieu va vous donner au centuple. Puis moi, j'ai le goût de leur écrire pour dire j'aimerais ça que tu me fasses un don, voir si ça marche de l'autre bord. Donc, en fait, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que les chrétiens, nous sommes des spécialistes pour contaminer la grâce de Dieu. Quand mes enfants étaient tout petits, 3 et 5 ans, on avait été dans une barboteuse, petite piscine. Puis à un moment donné, il y a une petite fille qui est là, puis bon, elle joue avec mes enfants, puis elle a peut-être 3, 4 ans. Je vais toujours me rappeler, elle se lève, petite piscine, elle regarde autour, puis elle vomit. C'était spectaculaire, mais est-ce que je serais un bon père de dire, non, c'est correct, les enfants, continuez de vous baigner, il n'y a pas de problème. Essayez d'éviter. Non. Lorsqu'on tente d'ajouter à la grâce. Vous savez, le problème des chrétiens, ce n'est pas qu'on nie la grâce, c'est qu'on ajoute à la grâce ce qui annule la grâce. Quand on tente de mériter, quand on tente de contourner, quand on cesse de s'appuyer sur la pure grâce initiée, imméritée, illimitée de Dieu, on contamine. Comme on voit les croyants de l'époque, les religieux, ont contaminé spirituellement Bethesda. Donc, et la Bible nous dit que Jésus s'en va. On perd Jésus. Quand on remplace Jésus par autre chose, on perd Jésus. Donc, l'obéissance, la spiritualité, la moralité du chrétien n'est pas la cause, mais la conséquence du salut. C'est important, toutes ces choses. Mais elles doivent être à leur place. Et c'est quoi les mettre à leur place? C'est que Dieu ne me bénit pas parce que j'ai assez prié, parce que j'ai assez donné ou assez de foi, mais parce que Jésus est assez. Frères, sœurs, la Bible parle, réalisons encore une fois ce matin que Jésus est assez. Jésus est suffisant. Jésus est notre plus grand trésor, notre plus grande richesse. Jésus est suffisant. Et Dieu nous bénit parce que nous sommes en Jésus. Alors que nous sommes rien, Jésus a tout accompli. Je continue, j'ai presque terminé. Verset 14. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Wow! Un verset que des prédicateurs ont utilisé pour traumatiser, condamner des gens. Je reviens. Jésus dit, donc il retrouve l'homme, il dit, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et voici la quatrième vérité de ce texte. Jésus n'est pas la source de ta maladie ou de ton malheur ou de ton épreuve. Je répète, les gens qui m'écoutent, Jésus n'est pas la source de ta maladie, de ton malheur ou de ton épreuve. Dieu est souverain, Dieu contrôle toutes choses. Ce que je veux dire, c'est que Jésus ne t'envoie pas une maladie pour te punir parce que tu n'es pas assez un bon chrétien. Certains vont dire, voyez-vous, là, Jésus va dire à cet homme, alors que je t'ai béni, je t'ai sauvé, je t'ai guéri, ne pêche plus de peur que t'arrive quelque chose de pire. Hein, je me souviens d'avoir lu un pasteur, un prédicateur dans un certain milieu qui a dit qu'une jeune fille, une famille était venue à Jésus, une jeune fille handicapée, puis finalement il y avait une guérison. Puis cette famille s'est détournée du Seigneur et cette petite fille est redevenue encore plus malade. Et l'interprétation de ce pasteur, c'est, voyez-vous, Dieu le punit, il est arrivé quelque chose de pire. C'est pas ça que le texte dit. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Regardons. Donc, premièrement, Jésus n'est pas la source de ta maladie, de ton malheur, de ton épreuve. Ça fait presque 25 ans que je suis dans le ministère. Et je le dis avec amour, je n'ai jamais vu la vie de personnes qui quittent le Seigneur s'améliorer. Ceux qu'on appelle rétrogrades, et peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui pendant cette pandémie, tu reviens à la foi, tu visionnes les messages. Je n'ai jamais vu quelqu'un quitter Jésus. La vie avec Jésus n'est pas toujours facile, mais je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la foi chrétienne, rejeter le Seigneur et voir son mariage s'améliorer, sa famille s'améliorer, sa vie s'améliorer. Donc, souvent, la pensée implicite de ces gens-là, c'est que ma vie va être mieux sans Jésus. Mon ami, ça, c'est un mensonge de l'enfer. Ta vie ne sera jamais mieux qu'avec Jésus. Quelqu'un a dit que ta pire journée avec Jésus est toujours mieux que ta meilleure journée sans Jésus. Et Jésus dit « ne pêche plus ». En fait, Jésus attaque deux mauvaises conceptions de la grâce dans cette simple déclaration. Premièrement, alors que je parle beaucoup de la grâce, je veux préciser que la grâce n'est pas une permission pour pécher, mais une puissance pour ne pas pécher. La grâce, c'est pas « Dieu nous bénit et on fait ce qu'on veut », c'est de l'antinomisme, c'est pas l'Évangile. Jésus, encore une fois, dit à cet homme, « Voici, je t'ai fait grâce, mais ne pêche plus. » C'est-à-dire, alors que tu as reçu la grâce n'est pas là seulement pour te guérir, elle est là pour te sanctifier, pour te transformer. Donc, on ne peut pas confiner la grâce au salut. Notre sanctification est par la grâce. C'est Pierre qui va dire que le Dieu de grâce vous transformera lui-même. Je continue. Un Corinthien va nous dire que Jésus est non seulement notre salut, il est notre rédemption, notre consécration. Et la deuxième chose, que Jésus dénonce par cette simple déclaration ne pêche plus. Donc, premièrement, la grâce n'est pas une permission pour pécher, mais une provision, une puissance pour ne pas pécher. Deuxièmement, c'est Dallas Willard qui dit que la grâce n'est pas opposée à l'effort, mais opposée au mérite. Pourquoi la Bible dit « œuvrez à votre salut » Donc, la grâce n'est pas opposée à l'effort. Le chrétien, celui qui met ses efforts. Suivre Jésus, on met nos efforts. Se sanctifier, marcher dans la parole, ça nécessite des efforts. La grâce n'est pas opposée à l'effort. La grâce n'est pas une justification pour les paresseux et les lâches. La grâce, encore une fois, n'est pas opposée à l'effort, mais opposée au mérite. Quand quelqu'un me donne un cadeau, c'est une grâce. Est-ce que je serais reconnaissant de dire merci, mais peux-tu le déballer à ma place? Parce que moi, c'est de l'effort. Là. C'est alors que je ne mérite rien, déballe. Hein, notre anniversaire, quelqu'un nous fait un cadeau. Mais non, quelqu'un nous fait un cadeau, c'est une grâce. Mais on va se donner au moins, on va mettre l'effort de déballer le cadeau. Alors que Dieu nous fait grâce, on met notre effort à suivre Jésus. Donc, ce n'est pas un mérite, c'est une réponse à la grâce. Et regardez ce que Jésus va dire. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, encore une fois, certains vont dire que ici, Jésus enseigne que tes péchés peuvent être la cause de maladies, de malheurs. Puis on le voit avec les liens générationnels ou toutes sortes de choses où les gens disent, tu veux trouver un lien avec ton épreuve. Fais pas ça. Les chrétiens disent, pourquoi? Le chrétien ne dit pas pourquoi l'épreuve, mais comment Dieu me fait grâce dans l'épreuve. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est quoi cette chose pire? Regarde le contexte. Je n'ai pas le temps de lire ce matin, mais dans Jean 5, si tu regardes le verset 19 à 30, immédiatement après, on a l'histoire de Bethesda, puis après on a un discours de Jésus. Et Jésus parle de quoi? Du jugement dernier. Et Jésus va dire, au verset 29, que celui qui a le Fils ne vient pas en jugement, il est déjà jugé. Pourquoi? parce que Jésus a porté notre condamnation, notre jugement à la croix. Donc, Jésus, dans son message, contredit ceux qui disent que, encore une fois, Dieu nous envoie des épreuves en fonction de notre standard de chrétienté. C'est anti-grâce, non. Oui, nous répondons avec foi. Oui, nous mettons nos efforts. Mais Jésus enseigne qu'est-ce qui peut de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est quoi le pire? C'est pas d'avoir un handicap plus grand, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui est pire que toute épreuve humaine? C'est la condamnation éternelle, c'est l'enfer éternel. Puis ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'alors que tu as reçu la grâce de Dieu, cette grâce-là va te rendre persévérant. Mais si tu te détournes de Jésus, c'est la preuve que tu n'as pas reçu cette grâce. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que l'épreuve? C'est la condamnation éternelle. Et c'est pourquoi Jésus va dire, celui qui a le Fils a déjà été jugé. Alors, on a tous entendu des prédicateurs nous imager le jugement dernier où, quand on va se présenter, Dieu va présenter nos péchés, puis il y a des gens qui sont nerveux. Moi je me sens comme Paul, je suis le plus grand des pécheurs. J'ai encore aujourd'hui, après des années de vie chrétienne, j'ai désespérément besoin de la grâce de Jésus. J'ai encore besoin d'un sauveur présentement, comme j'en ai eu besoin il y a 20 quelques années. Ma dépendance envers Dieu n'est pas moins grande avec mon expérience. Mais savez-vous quoi? Lorsque je vais me présenter devant Dieu, c'est avec assurance. Avec assurance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si Dieu me dit, si le Père me dit, tu t'en vas en enfer, je ne pourrais pas contester ce que le Dieu Tout-Puissant dit. Mais comme a dit cet homme, je vais dire à Dieu, dans ce cas-là, ton fils va devoir venir avec moi en enfer parce que lui et moi, nous sommes un, je suis caché en Jésus. C'est ce que Jésus dit. Celui qui a le fils, il n'est pas jugé, ne vient pas en jugement. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a subi notre jugement. Un jour, il y a un père avec son enfant qui sont dans une forêt. En fait, c'est dans les prairies. Puis il y a un grand feu, puis le feu avance rapidement. Et le père réalise qu'il est coincé. Et ce que le père fait, il va prendre un briquet puis il va allumer un feu, il va avoir un cercle puis il va aller se tenir dans le cercle. Son enfant lui dit, « Papa, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas, j'ai peur. » Puis là, le feu approche. Puis l'enfant dit, « Mais papa, le feu va nous brûler. » Le père se tient là où l'herbe est brûlée puis il dit, « Non, le feu ne passe jamais deux fois au même endroit. » Frères et sœurs, nous ne serons pas jugés lors du jugement dernier parce que notre jugement est passé sur Jésus. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Donc, toi qui m'écoutes, tu fais la paix avec Dieu en Jésus. Alors qu'on regarde à notre réalité, qu'on regarde à ce qu'on vit, on regarde à cette pandémie, ce n'est pas ton plus grand défi présentement. Il y a quelque chose de pire que tout ce qu'on peut vivre dans ce monde. Mais lorsqu'on fait la paix avec Dieu en Jésus, lorsqu'on se confie en Dieu, on se confie dans la croix de Jésus, alors qu'on est pécheur et que Dieu nous impute la justice de Christ, c'est-à-dire qu'il nous regarde totalement juste et droit, alors que Jésus a accompli la loi, il était parfait. Il y a des gens quelquefois qui disent qu'ils sont une bonne personne. Il y a une seule bonne personne sur cette terre pour le crucifier, c'est Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que toute cette justice de Jésus, elle est sur nos vies, par la foi. Ça s'appelle la justification. Et oui, l'enfer est pire que toutes les expériences humaines. Mais ce que Jésus veut faire dans ta vie est mieux que toutes les expériences humaines. Donc, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et je termine. Verset 15. L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Et c'est vraiment important. Donc, je termine. Frères et sœurs, Jésus, la source de la grâce. Premièrement, tuer ce cas désespéré. Deuxièmement, Jésus, la véritable source de la grâce, c'est-à-dire il vient à nous alors qu'on ne peut pas aller à Dieu. Troisièmement, est-ce que tu vis vraiment la maison de la grâce? Ou est-ce que dans ta vie, tu as tendance à mettre des substituts à la grâce, parce que notre chair désire désespérément mériter quelque chose. Quatrièmement, Jésus n'est pas la source de ta maladie ou de ton malheur. Puis finalement, simplement, la parole de Dieu pointe vers une chose, reçois la bonne nouvelle de la grâce et de la personne de l'œuvre de Jésus. L'Évangile, personnellement, je préfère le mot « bonne nouvelle » parce que l'Évangile est littéralement une bonne nouvelle. Puis quelquefois, l'Évangile devient un genre de slogan évangélique. Non, est-ce que tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus? Est-ce que le christianisme, est-ce que ta foi est une bonne nouvelle? Est-ce que Jésus est une bonne nouvelle? Est-ce que Dieu est une bonne nouvelle pour toi? Est-ce que toi, chrétien, t'es une bonne nouvelle pour les gens autour de toi? Et reçois la bonne nouvelle de la personne et de l'œuvre de Jésus. Premièrement, la personne. Jésus parle du Père. J'ai beaucoup parlé de Jésus. Vous savez, les chrétiens, on prêche surtout Jésus, mais pas seulement Jésus. Nous sommes trinitaires, nous croyons à un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une parfaite unité relationnelle. C'est important dans le salut. Père, Fils et Esprit. Puis Jésus le dit là. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'alors qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, Jésus est venu sur la terre, le Fils de Dieu. Deuxième personne de la Trinité s'est incarné. Il a marché sur cette terre. Il n'a jamais commis le péché, je l'ai mentionné. Il est mort à la croix pour payer ta dette, pour payer ton péché. Alors que tu peux mourir pour ton péché, tu ne pourras jamais l'expier. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu t'aime. Mais la justice de Dieu doit être satisfaite. Le péché doit être payé. Jésus le fait, c'est le seul qui peut le faire. Alors que nous sommes en faillite, on ne peut pas payer nos propres dettes. Jésus est plus qu'un multimilliardaire par son œuvre. Le fait qu'il a marché parfaitement, il meurt à la croix. Pleinement Dieu, pleinement homme. Il meurt, mais la mort ne peut le garder. Pourquoi? Parce que le pouvoir du péché, c'est la mort et Jésus est sans péché, donc la mort ne peut le garder. Il est ressuscité, confirmant aussi qu'il peut vraiment sauver, qu'il peut vraiment pardonner. Et la Bible nous dit qu'il est monté vers Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il intercède pour toi maintenant. Il prie pour toi. Il a envoyé son esprit. Il nous fait naître de nouveau. Il nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Cet esprit, non seulement nous arrache du royaume des ténèbres, comme dit Colossiens, mais nous transforme, nous sanctifie, nous ramène à l'image de Jésus. Et la Bible dit que Jésus revient. Il vient créer toutes choses nouvelles. Il vient établir ce que la Bible appelle le ciel, le paradis, l'éternité, qui va être un lieu où, même un lieu, un état où nous allons célébrer Dieu pour l'éternité, nous allons prendre plaisir en Dieu pour l'éternité. Donc ça, c'est l'œuvre de Jésus. Il est une bonne nouvelle. Donc, mon ami, Jésus pardonne aujourd'hui. Jésus délivre encore aujourd'hui. Jésus sauve. Jésus donne une deuxième chance. Il rachète. Il donne l'espoir. Il renouvelle. Dieu fait cette œuvre dans ta vie par Jésus. Non seulement Jésus parle de sa personne, mais il parle de son œuvre. Hein, puis il y a une opposition avec le sabbat, alors que les Juifs sont scandalisés parce que Jésus va faire un miracle le sabbat, il va agir le sabbat. Il va dire, mon Père est mon œuvre. Dieu agit. Dieu agit. En fait, pour bien comprendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, je termine là-dessus. Donc pour moi, là, la définition du christianisme, pour être clair, c'est simplement la bonne nouvelle de la grâce, de la personne et de l'œuvre de Jésus. C'est une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu dans nos vies. Et ça, elle nous est acquise comment? Par Jésus, mais non seulement parce qu'il est mort à la croix, mais par sa personne, pleinement Dieu, pleinement homme, par son œuvre qui est complète. Donc, pour moi, c'est la meilleure définition du christianisme. Et ça, ça a un impact dans nos vies radical, un impact radical. Et la Bible nous dit qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Pour comprendre la grâce, c'est un peu comme ce boxeur qui va avoir un combat pour le championnat du monde. Et la cagnotte, c'est 10 millions de dollars, par exemple. Donc, ce boxeur va aller se battre. Il va avoir un cachet de 10 millions de dollars. Lorsqu'il revient à la maison, il donne son chèque à son épouse. Donc, non seulement, lui, il est vainqueur parce qu'il a combattu, mais son épouse, elle est plus que vainqueur. Pourquoi qu'elle est plus que vainqueur? Parce qu'elle est victorieuse, elle a les bénéfices de la victoire sans avoir combattu pour la victoire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que nous avons les bénéfices de la victoire, nous avons les bénéfices du salut, les bénéfices de la paix avec Dieu, les bénéfices de la transformation, de l'espérance, de l'éternité, l'espoir. Nous avons tous ces bénéfices sans avoir à combattre pour, parce que c'est Jésus qui l'a fait à notre place. Le christianisme, ce n'est pas ce que je peux accomplir, c'est ce que Jésus a accompli pour moi. Tout est accompli. Le christianisme, ce n'est pas ma performance pour Dieu, c'est la performance de Jésus pour moi. Le christianisme, ce n'est pas mon obéissance. L'obéissance est importante, mais ce n'est pas la cause. C'est le fait que Jésus a été obéissant jusqu'à la croix. Même le christianisme, ce n'est pas « que ferait Jésus à ma place », c'est « qu'est-ce que Jésus a déjà fait à ma place ». Ça, c'est le fondement. Donc, frères, sœurs, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vraiment, vraiment expérimenter, recevoir Jésus qui est la source de la grâce. Pour la première fois, c'est ton cas, fais la paix avec Dieu, repens-toi. La Bible dit que tu peux faire deux choses, te repentir et croire en Jésus. Te repentir, c'est reconnaître ton besoin, reconnaître ton état, reconnaître que tu es un cas désespéré. Arrêter de te cacher, avoir l'humilité de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de Dieu dans ta vie. C'est la repentance. Et la foi, et la confiance dans ce que Jésus a fait. Que ce soit pour la première fois depuis 20 ans, les gens qui m'écoutent ce matin, tu as besoin de redécouvrir la grâce de Dieu. Tu as besoin de redécouvrir Jésus. Et sans vouloir être cheesy, pardonnez l'expression, tu as besoin de retomber en amour avec Jésus. Tu as besoin de réaliser que tout a toujours rapport avec Jésus. Père, merci pour ta parole, merci pour l'Esprit, merci en nous, merci pour Jésus qui a tout accompli. Merci pour cette Église, merci pour la Bible parle, merci pour le leadership de Pasteur Jeff au travers des années, la fidélité. Merci pour les hommes et les femmes de au leadership que tu amènes autour de lui. Je prie pour mon frère Sylvain, je prie pour les autres. Seigneur, je te prie pour l'Église, dans ce temps particulier de pandémie, la mission de l'Église continue. Alors qu'on ne peut pas se réunir, alors que les bâtiments sont fermés, l'Église n'est pas fermée. Je te prie pour la Bible parle, Seigneur, que tu puisses continuer de la diriger. Merci pour ta grâce qui est sur cette Église depuis des années. Et je te prie de continuer de préserver, de protéger cette Église, de continuer d'agir dans cette Église. Seigneur, en tant que pasteur à Laval, à Fabreville, je suis tellement reconnaissant d'avoir non seulement des voisins qui sont une bonne église, mais des frères et des sœurs. Maintenant, nous sommes dans la même équipe. Deux églises, mais au bout de la ligne, une seule église. Nous ne sommes pas des rivaux. Nous avons un même Jésus, nous prêchons un même évangile. Et Seigneur, je veux simplement dans la prière déclarer que le portail a beaucoup d'affection pour la Bible parle. Et nous prions que tu les bénisses et que tu les bénisses à la gloire de Jésus. Amen.